Mais je me demandais, donc, dans la politique juive ou dans la politique de l'exil, finalement, quel est le rôle qui est dévolu au goyim? Qu'est-ce qu'il s'agit de faire d'eux? Quelle doit être l'action du peuple juif par rapport à eux?
Je pense que dans... suppose qu'il y a des politiques très différentes qui assignent à chaque fois au goyim, à ce que Rosenzweig appelle les peuples du monde, des fonctions, des statuts très, très différents. Pour Rosenzweig, c'est assez simple et c'est assez convenu, c'est-à-dire que s'il est partisan d'un exil assumé, ontologiquement enraciné du peuple juif, c'est parce que, précisément, il y a une vocation qui est une vocation là où se tiennent les peuples exilés, c'est-à-dire parmi les nations, c'est-à-dire parmi les goïms, là se tient, via la Shrina, Dieu. Donc il y a une fonction très simple, et c'est pour ça qu'il est passionniste. Là où un petit pan, en quelque sorte, un petit groupe de juifs maintient quelque chose de la relation à Dieu, là se tient une présence. Et donc, et Rosenzweig défend cette idée d'une présence des juifs dispersés parmi les nations. Donc pour Rosenzweig, dans l'économie générale de l'exil, si vous voulez, il y aurait cette fonction-là à quoi seraient assignés les peuples du monde, dans le rapport qu'il établit entre peuple éternel et peuple du monde. Et il analyse ça, j'ai l'impression d'avoir à peine décrit quelque chose comme une partie de squelette, là où il faudrait mettre à chaque fois de la chair, mais ça demanderait un temps fou. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, cette présence Shrina, de Dieu, parmi les nations, ça se joue aussi dans des modes, chez Rosenzweig, c'est assez compliqué d'expliquer ça en trois phrases, dans des modes qui sont à chaque fois pour lui des modes de temporalisation. C'est-à-dire que ce qui est présent, c'est une certaine figure de l'éternité, parmi les nations, hein, parmi les 70 nations, parmi les peuples du monde, qui sont eux pris dans des procédures de temporalisation. Il y a une très belle métaphore, il dit que les peuples du monde sont comme un fleuve, constamment changeant, hein, on ne se bête jamais deux fois, etc. Et l'éternité juive serait comme, dit-il, une arche qui viendrait enjamber le fleuve. Le christianisme, dit-il, c'est une image qu'on retrouve chez Peggy, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce rapprochement, alors que c'est jamais entrelu, bien sûr. Le christianisme serait comme un rail, dit Rosenzweig, qui accompagnerait le fleuve du temps, le cours du temps. La vocation du christianisme, donc des goïms, ce serait d'accompagner le temps, là où la vocation du judaïsme, ce serait à l'intérieur même des peuples du monde, de rappeler quelque chose comme l'éternité. Je pense que pour Rosenzweig, ça s'articulerait à peu près de cette façon.
Mais à ce moment-là, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Certes, il y a les peuples du monde, et certes, il y a une présence à assumer et qui, d'une certaine manière, pourrait éclairer ou qui pourrait être dans l'attente. Mais dans d'autres religions, si on reprend cette métaphore d'une rivière qu'il s'agirait d'enjamber, dans d'autres religions, finalement, la question, elle est résolue d'une manière assez simple, qui est celle du prosélytisme. L'action de la religion, c'est de transformer les autres par le prosélytisme. Or, on sait que, dans le judaïsme, de manière historique, à un certain moment, pour des raisons historiques, le prosélytisme a été quelque chose de relativement évacué. Donc, du coup, dans cette présence au monde, au-delà du fait d'être une sorte de rappel, d'éternité dans l'attente, est-ce que il y a un but dans la philosophie politique juive par rapport à une modification des autres peuples au travers, auprès desquels une présence s'est exercée. Qu'est-ce qu'il est attendu d'eux? Est-ce que finalement ces autres peuples ne sont ni objet ni sujet? Ou bien est-ce qu'il y a une action, quelle qu'elle soit, qui est à entreprendre et qui les concernerait et qui pourrait être vecteur d'évolution, quelle qu'elle soit? Et comment?
Une partie de...
C'est-à-dire que la soustraction qui s'oppose à l'expansion fait qu'effectivement, ça, tout le monde sait ça, il n'y a pas de prosélytisme juif. Ou plus exactement, il y a un prosélytisme juif qui consiste non pas à convertir les nations, à la fin des temps, toutes les nations convergeront vers la Jérusalem céleste, en quelque sorte. Mais il y a un prosélytisme juif qui consiste à se confronter avec ce que Rosenzweig appelle polarité interne. Et ça, on le sait, c'est-à-dire qu'il s'agit de convertir les juifs au judaïsme. La politique, il y a quelque chose comme ça chez Rosenzweig, ça passe par la fondation d'un Beit HaMidrash à Francfort, ça passe par des actions qui sont des actions culturelles et politiques chez lui. Donc il y a une action politique, c'est pas simplement. Et la dissimulation, ça consiste au fond à faire en sorte que ce judaïsme assimilé, pour lequel Rosenzweig avait, alors qu'il en venait lui-même bien sûr, avait un profond, parfois il y a dans la correspondance, presque du mépris. Il se moque du public qui vient à Francfort écouter les conférences qui sont données au Beit HaMidrash, parce que c'est un judaïsme germanisé, cultivé, etc. Toute chose, la dissimulation, c'est ça, au fond, le prosélytisme juif, c'est un prosélytisme de la dissimulation. C'est-à-dire ramener les assimilés, et d'une certaine façon les sionistes, mais c'est une fausse symétrie, Rosenzweig n'a pas exactement le même rapport aux uns et aux autres, les ramener à ce statut de rappel de l'éternité. Donc ça ne fonctionne pas par expansion, ça fonctionne au fond soit par soustraction, ça c'est les ennemis de l'extérieur qui exterminent, donc ça soustrait, soit par réassemblement, réagencement interne au judaïsme, entre les assimilationnistes, les sionistes, et le peuple juif, le peuple éternel, celui qui est dans la fidélité de chaque instant aux 613 commandements. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Du coup, je veux dire qu'il n'y a pas de... La seule fonction qui est assignée au peuple du monde, c'est au fond de porter quelque chose de la Torah et de l'universaliser. Et donc, il n'y a pas du tout lieu de les convertir. Bon, ça, tout le monde le sait. Avec, à la fin des temps messianiques, un rassemblement de toutes les nations.
N'affecte que le peuple juif ou affecte les autres peuples? C'est cette même question que vous avez posée comme question, en somme, oui. Qui reste...
Ça, c'est une question parce que l'épistémologie que voilà. Je me posais... Mais l'extra-historicité juive, elle fait contraste, voilà, pendant l'historicité pleine des peuples.
En particulier du christianisme, mais même pour l'islam, les quelques paragraphes qui sont consacrés à l'islam sont assez rapides, mais il y a la même vocation universalisante. Ce sont deux grandes religions d'expansion et d'universalisation.
Je voudrais vous faire part de quelques difficultés que j'ai dans la traduction de la question allemande que vous avez besoin de voir. Ce terme de dissimulation, ça, en somme, un amalgame de assimilation
et oui, un amalgame. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un concept de Derrida qui le traduirait beaucoup mieux, parce que dissimulation en français, c'est dissimulation. Mais même dissimulation. Eh bien, la dissimulation, je me demande s'il ne faudrait pas traduire par dissémination. Est-ce que ce serait
autre chose ?
Est-ce que c'est pas
là où les Juifs sont assimilés, il faut inventer des procédures politico-culturelles de dissimulation pour Rosenzweig,
le Beta Midrash de Francfort en particulier.
Alors, encore dernière fois sur la question que vient de vous poser, je crois je ressens quand même comme un très grand romantisme la position de Rosenzweig, bien que dans sa vie. Ça ne semble pas du tout avoir été le cas, parce que je crois qu'il a eu beaucoup de courage. Alors, si je parle de sa vie, il a eu le courage de rompre avec l'université, dont il était un brillant sujet, comme vous l'avez exposé, puisque vous pouvez imaginer qu'il y avait deux hommes différents, l'homme de l'universitaire, brillant allemand, et puis cet homme qui fait un retour sur qui n'est pas justement dans sa tradition familiale, qui fait un retour sur le judaïsme. Et alors, là, c'est extrêmement courageux dans sa vie, puisqu'il a fondé une maison d'études juives. Enfin, il a vraiment fait un travail très courageux. C'est donc, il faut savoir que cet homme-là, il était engagé. Maintenant, sa position me paraît romantique. Et là, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit concernant le fait qu'il situe le judaïsme comme une sorte de peuple, alors à la fois ce peuple éternel, mais en même temps ce peuple dont le père, pour lui, serait Abraham. Il dit d'ailleurs quelque part que Dieu parle à Adam, mais Adam ne lui répond pas, c'est Abraham. Alors, il me semble qu'il fait une erreur, et c'est là qu'est son romantisme, parce que Abraham lit l'immigré dont il parle, on est un peuple d'immigrés, et ça va jusqu'à Horviller aujourd'hui, qui dit nous sommes tous des émigrés. Et bien ce peuple d'émigrés, c'est faux, parce que Abraham il revient à sa terre, c'est un homme, c'est un hébreu qui revient, et on le retrouve avec Joseph qui est identifié par les Égyptiens comme un hébreu,
avec
Joseph aussi, mais avec Abraham aussi c'est dit, il revient, il fait retour sur un... Oui, c'est ce qu'on dit toujours.
Donc c'est l'opposition que... C'est là entre Abraham et Ulysse. L'homme qui revient, c'est Ulysse,
qui revient sur son île natale. Je pense qu'il faut entendre cette lecture rosenzweigienne du Lech Lecha comme cette idée que l'exil est la vocation la plus enracinée, si on peut dire, du judaïsme lui-même. Pour Rosenzweig, c'est, là, la question qui se pose, c'est la question du sionisme, essentiellement. Mais bon, oui.
Oui, il m'a semblé que pour des raisons géométriques, je devais intervenir, vu que la personne à ma gauche et la personne à ma droite. Donc, il y a un argument de convexité qui me force à intervenir.
Vous voulez préparer votre intervention.
Et deuxièmement, j'interviens aussi parce qu'est venue au milieu de votre discussion à l'instant, cette identification du judaïsme à l'exil. Et donc moi, les réactions que j'ai eues à ton exposé, que j'ai beaucoup aimé, parce que cette mise en scène de la posture de Rosenzweigienne, elle est fascinante, et c'est enrichissant de l'entendre présenter comme tu l'as fait. Mon association, c'est d'abord une association, historique, politique, liée à l'expérience personnelle qui est la mienne, et je dirais à ma jeunesse. C'est-à-dire que je me souviens que dans ma jeunesse, l'équation du judaïsme avec l'exil, c'était la compréhension majeure du judaïsme. Tous les philosophes le voyaient comme ça. Et c'est des choses que nous partageons, c'est une culture qui nous est commune. Tu te souviens, il y a Blanchot qui dit ça littéralement. Moi, dans mon entretien avec Lyotard, il y a un moment très beau où il dit que le judaïsme, c'est les noms passés à travers l'exode. Donc c'est encore la même formulation. C'est une idée qui s'imposait à un certain contexte intellectuel, et c'est un contexte intellectuel qui comprenait toujours le judaïsme comme l'équivalent historico-religieux de la grande négativité qui animait l'espoir révolutionnaire des intellectuels du monde. Le judaïsme était presque un argument en faveur de la révolution, de même que Pascal disait que c'était un argument en faveur de l'existence de Dieu, la persistance du peuple juif, forme contemporaine. Dans ce peuple de l'Exode, il y a l'annonce de la traversée et du surmontement de tout ce qui bloque l'histoire. C'était le feeling de ma jeunesse. Et Rosenzweig, il donne plein de formules qui justifient cette perception. Mais en même temps, moi je pense profondément que cette perception est fausse, que c'est justement une reconversion du judaïsme dans la problématique de l'historicité standard, alors que le judaïsme est autre chose. Je pense qu'il y a un tort fait au judaïsme dans cette lecture, qui était la lecture par l'Exode, même si elle a pu être très belle. Et il me semble que cette difficulté, elle apparaît dans ce que tu nous as présenté, elle apparaît de la manière suivante, c'est que, au début, quand tu présentes l'extra-historicité des Juifs à partir de Rosenzweig, cette extra-historicité, elle est très clairement fondée sur la loi. Pourquoi est-ce que les Juifs ne sont pas dans l'histoire? C'est parce qu'ils sont tenus par la loi, et la loi est un commandement transhistorique qui situe d'une certaine manière le judaïsme à l'extérieur de tout ce processus interminable de transformation qu'est ce qu'encourent indéfiniment les peuples du monde et de l'histoire. Donc l'extra-historicité, c'est la loi qui la détermine. Et après, si le juif il est clivé, c'est parce qu'il a un pied dans la communauté qui est requise par la loi, et il a un pied dans les communautés qu'il accueille, où il vit aussi. Et puis ensuite, à la fin de ton exposé, quand tu as évoqué le messianisme, par exemple, tu t'es mis à spontanément, mais je pense que ça doit être lié, ça doit être justifié par des formulations de Rosenzweig lui-même, tu t'es mis à interpréter cet écart qui fait que le juif n'a qu'un pied dans la concrétude du développement historique. C'est plus la loi, l'autre terme, le terme qui fait l'écart, c'est l'indéterminé. Tu te mets à dire que les juifs, ils sont pour une part dans l'histoire et pour une autre part, ils ont une vocation à l'indéterminé. Et ça, c'est ce que les gauchistes ont dit. Il faut lire Lyotard, parce que c'est Lyotard qui est le plus clair sur tout ça. Et lui, il comprend que il y a chez les juifs une capacité, selon lui, d'avoir un rapport à l'histoire où on est tourné vers ce qui est absolument non prévisible. C'est sa lecture. Et ça correspond à un aspect de ce que tu as présenté. Mais justement, si on dit que l'extra-historicité, c'est une disponibilité pour l'indétermination absolue, c'est plus du tout la même chose que de dire que l'extra-historicité, elle est liée à la distance de la loi avec le processus de l'histoire. Et ça, c'était ma première remarque. Et j'en ai une seconde, et ensuite, j'en ai plus personne. La seconde, c'est sur cette affaire, de l'extra-historicité. Bon. L'extra-historicité, je l'ai répété, c'est le fait qu'il y a lien avec quelque chose qui est requis par une loi. Et donc il n'y a pas juste le processus et les lois du processus qui font que tout se transforme, les états, les nations, les langues, les coutumes, etc. Et effectivement, moi j'ai remarqué que... Alors, cette éternité du peuple, le fait qu'il est pris par la loi, une des manières dont ça se traduit, c'est par une autre historicité, celle que Lévinas appelle l'historicité de l'histoire sainte. Et qu'est-ce que c'est l'histoire sainte? C'est qu'il y a une histoire de la transmission. À partir du moment où on reste dans l'attitude de devoir être fidèle à une loi, à une réquisition qui est celle de la loi, ben, il va y avoir une transmission de cette fidélité. Et cette transmission de cette fidélité, elle donne lieu à une toute autre historicité qui est l'historicité de la compréhension de la loi elle-même. Et donc ça, c'est l'enchaînement historique. Tanaïm, Amoraïm, Gaonim, Rishonim, etc. Et moi j'ai fait l'expérience en discutant avec des camarades intellectuels gauchistes qui sont le milieu natif de ma vie, que si on leur dit ça c'est une forme d'histoire, ils répondent que non, c'est pas de l'histoire pour eux. C'est pas de l'histoire parce qu'il n'y a pas la guerre, Parce qu'il n'y a pas l'État, il n'y a pas le conflit, il n'y a pas une énergie qui corrompt tout et qui transforme tout. Hein. Donc ce n'est pas la vraie histoire pour eux. L'histoire de la fidélité, l'histoire sainte, n'est pas une vraie histoire. Ce qui est, à mon avis, la meilleure défense de l'idée d'éternité, de Rosenzweig, moi je la justifierais par l'histoire sainte. Voilà, et ça c'était quelque chose que j'ai senti absent de la perspective de Rosenzweig, et moi je trouve qu'il fallait l'introduire. J'ai terminé.
Il y a une très grande quantité de choses sur la façon dont, en notre ou en ma jeunesse gauchiste,
un certain judaïsme a pu être mobilisé du côté de la révolution. Non seulement par l'exil, mais par ce qui était. Par l'opposition entre un certain nomadisme révolutionnaire et quelque chose d'autochtone, de sédentaire, qui était profondément réactionnaire, etc. Bon, tout ça, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, sinon biographique. Le point qui m'intéresse le plus dans ce que je t'ai entendu dire, c'est la question de l'histoire. Il est évident qu'on mobilise pas le même concept d'histoire quand on parle d'extériorité juive par rapport à l'histoire. Le concept qui est là mobilisé, c'est très précisément celui de la philosophie de l'histoire de Hegel. Et quand on parle de la transmission, quand on parle même de l'étude, je rappelle un adage tout simple que tout le monde connaît, dans la Torah, il n'y a ni avant ni après. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire, si on entend par histoire, succession, chronologie, etc. Enfin, c'est ce que Yerushalmi a très bien montré, et il a très bien montré comment, à la fois, il n'y a pas d'histoire, au sens de, où il n'y a pas d'historiographie, et en même temps, il y a une sorte de sensibilité extraordinaire à la phénoménalité historique. Donc c'est ça que prend en vue Rosenzweig. Quand il dit extra-historicité, il veut pas bannir absolument et comme un tabou toute idée d'histoire. Ce que tu dis de la transmission est parfaitement recevable dans le cadre rosenzweigien, il me semble. D'ailleurs, il le dit en toutes lettres dans un très beau texte, c'est le programme d'ouverture qu'il a écrit lui-même au moment de l'ouverture du Beit HaMidrash, la maison d'études de Francfort, où il dit à peu près ce que tu viens de dire sur l'histoire sainte et la transmission et le témoignage, la transmission et le témoignage, ajoute-t-il. Donc il faut entendre extra-historicité au sens à chaque fois il faut c'est que les concepts il faut les entendre au sens strict. Philosophie, ce que j'ai dit de la philosophie politique. Il faut le dire aussi de la philosophie de l'histoire. Cette histoire à quoi les juifs n'ont pas part, c'est l'histoire de l'ontologie hegelienne de l'histoire, c'est tout.
Non, mais ça, j'ai bien compris.
Oui, je me doute que tu as bien compris, mais.
Tu ne peux pas faire entendre à des gens qui n'ont pas une espèce de fréquentation quasi existentielle de la chose juive, tu ne peux pas faire entendre qu'il y a une autre histoire que l'histoire hegelienne. En réalité, c'est exclu pour tous nos interlocuteurs.
C'est pour ça que je
voulais juste rappeler ça.
Le seul qui veut, parce que d'une certaine façon, dans notre culture, dans nos représentations,
il n'y a pas d'autre histoire que celle de Hegel. Et c'est très difficile, j'entends la difficulté de faire valoir quelque chose qui n'aurait à voir ni avec la succession, ni avec la chronologie, ni avec l'établissement de séquences qui se suivent et s'entredéterminent.
Qui est l'histoire des sciences. Dans l'histoire des sciences, on a un exemple qui est comme l'histoire des couches du Talmud, c'est-à-dire il y a des choses qui sont les unes après les autres, et elles ont des rapports de reprise conceptuelle et d'intelligibilité profonde, et en même temps c'est une transmission, c'est la transmission d'un problème et d'une exigence dans chaque science, et notamment dans celle que j'ai le plus étudiée, qui est les mathématiques. Et donc les gens, et il y a un conflit avec des gens qui veulent résorber ça dans l'histoire hegelienne, et qui sont tous ceux qui font ce qu'on appelle de l'approche externaliste des sciences. Ça veut dire ça veut dire résorber l'intrinsèque et le responsable d'abord par rapport à sa propre exigence, qui est celui du développement intrinsèque de la science. Et donc les gens pourraient très bien comprendre. Mais moi, mon expérience de 40 ans de discussion, c'est qu'il y a un refus. On est dans un point dur, là où dès qu'on a un pied dans l'affaire juive, on voit avec évidence, c'est refusé en général. Maintenant j'arrête.
Je sais bien ce que je veux dire. Des accords. Comme tu dis l'histoire des sciences, que je ne fais pas
paradigme scientifique qui s'entre-détruit. C'est-à-dire qu'il y a là aussi, il n'y a pas de linéarité ascendante. Mais on pourrait le dire de l'histoire de l'art de la même façon. Et on pourrait le dire, à certains égards, de l'histoire de la philosophie. Une histoire de la philosophie. Qui serait pas hégélienne, mais c'est très difficile parce que au fond la représentation, la surdétermination de nos visions de l'histoire par l'hégélianisme est irréversible. C'est ce dont tu attestes. Elle est irréversible, c'est-à-dire que la moindre encyclopédie en 10 volumes sur l'histoire des civilisations, elle est portée par une sorte d'hégélianisme, Althusser disait hégélianisme du pauvre. Le moindre journaliste fait de l'hégélianisme sans le savoir. Donc, la résistance que tu évoques, elle me paraît, elle ne m'étonne pas. Et essayer de faire valoir au fond d'autres histoires, d'autres modalités d'historicisation, histoire des sciences, histoire de l'art. J'ajoute histoire de la philosophie elle-même. Quand on fait dialoguer au fond Platon avec Kant, on n'est pas dans l'histoire successive et on n'est pas dans l'histoire chronologique et on n'est pas dans sauf chez Hegel. On a affaire à des systèmes qui se suivent, qui s'entre-annulent et qui s'exaucent jusqu'au savoir absolu, bien sûr. Donc, soit j'ai pas compris ce que tu voulais dire, soit je suis évidemment d'accord avec cette idée que l'histoire dont parle Rosenzweig, c'est l'histoire de la philosophie de l'histoire de Hegel, bien sûr, rien d'autre.
J'ajoute que toute cette histoire, un axiome du type « il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après », c'est une extravagance, une absurdité. Or, c'est bien comme ça que les sages lisent la Torah, enfin lisent la tentent de la comprendre et de l'interpréter. C'est-à-dire de façon non historique, en quelque sorte. Mais non historique, ça rebondirait sur ce que tu viens de dire, non historique au sens de Hegel, bien sûr. Il y a quelque chose qui fait histoire. Il faudrait le statut, la question, c'est la question de l'histoire. C'est sur quoi je m'interrogeais en me demandant si l'exception juive, l'exception à la causalité historique dont parle Baer, est-ce qu'elle intéresse évidemment le judaïsme. Mais on voit très bien dans la discussion qu'on a qu'elle intéresse hautement le statut même de l'histoire et de l'historicité. On pourrait montrer, mais là, à quel point Hegel lui-même, l'ontologie hegelienne de l'histoire, n'est pas historique. À rebours du... Ce que fait Hegel, c'est pas du tout contrairement à certaines apparences, d'exposer comment l'histoire de l'esprit s'autodéploie, mais ce que fait Hegel, c'est déterminer ontologiquement les structures de l'historicité, ce qui est tout autre chose que faire de l'histoire. Je pense qu'on pourrait montrer aisément que Hegel n'est pas un philosophe de l'histoire, mais il faudrait évidemment ici convoquer quelque chose de tout autre qu'une autre histoire que celle de Hegel, bien sûr. Il est le philosophe de son histoire, d'une histoire hegelienne en quelque sorte. Il y a quelque chose qui, comme dirait Rosenzweig, c'est un serpent qui se mord la queue. Hegel fait une philosophie de l'histoire selon Hegel. Et donc, ce que j'entends, c'est qu'on peut faire valoir d'autres paradigmes, en particulier celui de l'histoire des sciences, peut-être. Tu es d'accord ou pas?
Non, non, c'est vrai. J'y arrive.
Oui, il ne faut pas prolonger indéfiniment cette discussion, mais en fait, moi, par exemple, quand tu dis l'histoire de la Torah, il n'y a pas d'avant et pas d'après, si on prend ça dans son isolation, ça ne me semble pas correct. Parce que, bon, moi je me souviens des passages, par exemple, du Maharal de Prague, où il insiste beaucoup sur la manière dont on doit se comporter vis-à-vis des enseignements qui sont plus anciens que d'autres enseignements qui sont plus récents. Donc, en réalité, tout le travail qu'il y a dans le Talmud, il est toujours dans la conscience extrême de ce qui a été dit, dans l'ordre où ça a été dit. Et cet ordre, il compte, et il compte selon le gradient du commandement et de la transmission. C'est ça l'autre histoire. L'autre histoire, c'est que ce qui fait passer d'un... C'est pas linéarité versus non-linéarité, c'est deux modes de la linéarité. Dans l'histoire hegélienne, tu as un mode de la linéarité où les moments, le moment ultérieur, il est produit par le moment antérieur. C'est-à-dire que l'histoire, elle est toujours enveloppée dans l'ontologie, et l'ontologie est comprise comme dynamique, et c'est parce que l'ontologie est comprise comme dynamique que le futur est toujours produit par le passé. Inversement, quand tu as le modèle historique que nous donne, par exemple, l'accumulation du Talmud, eh bien, les moments ultérieurs, ils sont produits par le fait que je reçois un commandement qui vient du passé. C'est pris par ce commandement qui me vient du passé que je vais ajouter ma pierre. Donc on est dans une linéarité, mais cette linéarité, elle est effectivement pas causale, elle est à chaque instant dans la responsabilité. Et l'enjeu de cette linéarité, c'est toujours la transmission, c'est-à-dire la fidélité, etc. Alors maintenant, c'était pour insister. Parce que c'est une accumulation. Chaque point, son sens se saisit comme adjonction à quelque chose qui ne cesse de s'accumuler.
La linéarité est brisée continuellement par... achronologie. La Torah orale est donnée en même temps que la Torah écrite au Sinaï. Voilà. Je trouve que c'est linéaire.
Je répète, ce qui est linéaire, c'est l'accumulation d'une transmission. Et de même, on a quelque chose où les gens peuvent comprendre que c'est historique, parce que c'est une accumulation, justement, mais ce n'est pas une accumulation au sens du procès ontologique de l'automouvement du concept selon Hegel. Alors maintenant, je suis d'accord avec toi que, évidemment, il n'y a pas du tout que le Talmud. En réalité, il y a des histoires qui sont constituées par la transmission d'une exigence, mais que justement le regard hegélien ne permet pas de voir. C'est clairement le cas des sciences. Pour le cas de l'art, c'est tout un conflit. Il y a de nouveau un conflit, parce qu'il y a des gens qui ont voulu comprendre le développement de l'art à partir des puissances de l'ontologie. C'est-à-dire que les modes de l'art, à chaque fois, ils reflètent la façon dont l'ontologie s'est emparée du social et a façonné la culture, et s'est supposé produire de façon aléatoire, avec des diagrammes de répercussions des événements qui seraient non linéaires. Ça fait beaucoup de gens qui considèrent l'art essayent de lutter à tout prix contre l'idée d'une accumulation dans laquelle l'art serait comptable depuis toujours devant une exigence, qui est l'exigence de l'art, justement. Et donc, il se refuse à essayer de comprendre tout ce qui se fait, toujours dans l'intelligibilité de la récapitulation de ce qui a eu lieu. Je pense qu'on peut regarder l'art comme ça. Mais déjà, nos collègues, la plupart du temps, ne le veulent pas. Et en revanche, sur l'histoire de la philosophie, je suis d'accord avec toi, la pratique de nos collègues à laquelle ils sont attachés, c'est celle d'une histoire de la philosophie intrinsèque. Et effectivement, ils acceptent de confronter les auteurs en ne tenant absolument pas compte de leur place dans l'échelle, et ils vont dire à tel endroit que le conflit entre Carnap et von Neurath est une reprise de ce qui se passait entre Spinoza et Descartes. On va le dire parce qu'on comprend cette histoire du point de vue d'une exigence absolument intemporelle de l'intelligibilité. Mais il y a beaucoup de philosophes qui ne veulent pas le voir et le dire de cette manière-là. Néanmoins, je pense que la pratique effective de l'histoire de la philosophie, elle est comme ça. Elle est sans arrêt... La datation des productions conceptuelles de la philosophie, elle n'est prise en compte que du point de vue de cette exigence et de cette fidélité à la grande affaire de l'intelligibilité qui tient tous les philosophes. Donc voilà, c'était juste pour clarifier cette affaire de la linéarité et pour dire que je suis d'accord avec toi pour dire qu'on peut reposer le problème dans plein d'autres dimensions, mais dans chacune d'elles, nos collègues sont réfractaires à sortir du point de vue hegélien. Voilà. Même dans le cas où ils devraient tous le faire, qui est le cas de la philo, où c'est évident, c'est ça.
Nos collègues.
La plupart, presque tous. Même les plus brillants que j'aime. Hein. Ouais.
C'est pas que je voudrais faire une motion de synthèse, mais je vois bien le problème que tu poses, la difficulté avec la transmission de la tradition, c'est que comme il y a transmission, il y a bien histoire, puisque quelque chose doit passer, et que comme le temps s'écoule, la transmission se fait dans le temps. Mais en même temps, il y a toujours négation qui est changement. Et ça, c'est la grande difficulté, c'est-à-dire il y a effectivement transmission, il y a effectivement accumulation, toujours assortie de la clause de l'absence de changement. D'où le « il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah ». Donc et là, on est pris dans une espèce de... on n'arrive pas, en réalité, à savoir si c'est une histoire ou pas une histoire. C'est une difficulté, je pense, qui est beaucoup plus grande que celle des mathématiques. Parce qu'il n'y a pas cette clause n'est pas associée à chaque fois dans la maths. Ah, d'accord. Si on veut. Ah, oui. Mais c'est moi qui connais rien en maths, alors. Si. D'accord. D'accord.
Parce que c'est deux choses qui sont proliférantes.
D'accord.
Les gens ont accumulé des versions nouvelles de tout de manière proliférante et incroyable. Et en même temps, chacun dit ce que je dis, c'est ce que tout le monde a dit, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je formule le théorème de Pythagore de telle manière que Pythagore ne comprendrait pas ma formulation,
oui.
Et c'est toujours le théorème de Pythagore.
D'accord.
Par exemple.
Donc ça fait effectivement une affinité assez forte. Ouais. Ma question était sur la manière dont vous avez dit que Ricoeur comprend, disons, cette espèce de portrait du juif par contraste avec le portrait du grec. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment une question métaphysique? Est-ce que ce n'est pas une question plutôt existentielle? Si c'est métaphysique, naturellement, tout le peuple juif en tant que chose réelle peut être concerné ou pas. À la limite, il pourrait ne plus exister. Mais si c'est existentiel, à ce moment-là, il doit y avoir un porteur. Il faut qu'il y ait des porteurs de l'expérience. Et ça fait rentrer le fait juif, à ce moment-là, de l'intérieur de la construction de Rosenzweig. Et effectivement, il a voulu... il y avait un programme de dissimulation, on pourrait dire de tshuva, de retour, qui était à l'horizon. Ma question, c'est si donc il y a quelque chose comme un fait juif et qui n'est pas, disons, complètement superposable à cette chose métaphysique, mais qui a une existence réelle dans l'histoire, quand même dans l'histoire, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est en fait de Rosenzweig aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on transporte la pensée de Rosenzweig aujourd'hui? Vous avez parlé de Yitzhak Ber. Yitzhak Ber, par exemple, il est devenu sioniste. Donc lui aussi, il disait, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette extra-historicité du peuple juif? Et sa réponse était, de manière contingente, les juifs sont sortis du rang des nations combattantes. Et donc, sortant du rang des nations, et c'est là que ça consonne naturellement avec Rosenzweig, le peuple était en quelque sorte intouchable, il ne pouvait pas être, disons, éliminé par le processus naturel de l'entrechoquement des peuples dans l'histoire. Et du coup, la conclusion de Baer dans les années 30, donc Rosenzweig n'est pas du tout concerné par cette conjoncture politique, il meurt bien avant, Baer en conclut, tout en maintenant, disons, la position, on pourrait dire, presque néo-orthodoxe de Rosenzweig, c'est-à-dire, les Juifs ne sont pas, semble-t-il, concernés par la causalité historique à laquelle les nations sont soumises. Qu'est-ce que, donc ma question c'est, si vous faites l'exercice d'imagination de ramener Rosenzweig dans le monde, je dirais pas des années 30, mais disons dans le monde post-Shoah, comment est-ce que son système aurait fonctionné dans ce nouveau monde? C'est la question que je me pose en fait, c'est pour ça que je vous la pose.
Alors d'abord sur la le portrait métaphysique du juif
et vous opposez métaphysique à existentiel. Je crains que la discussion soit encore plus sédimentée et conflictuelle et embrouillée que sur histoire, sur métaphysique, on ne finirait pas. Donc, je pense que le portrait métaphysique, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que ce que Rosenzweig tente de déterminer, c'est l'équivalent d'une structure existentielle, justement, pas existentielle, je me réfère à Heidegger, et qu'il appelle, lui, métaphysique. Ce qui est important dans métaphysique, c'est pas tellement l'idée de la vieille métaphysique, hein, de la vieille philosophie d'école. Je pense pas que Ricoeur... Le mot est malheureux, de toute façon, mais j'aurais pas dit comme ça. Mais ce qui est important, c'est méta. C'est-à-dire qu'il y a, dans la façon de penser de Rosenzweig, des déplacements qui sont à chaque fois méta. Il le dit lui-même, hein, il appelle ça une méthode. Métaphysique, métapolitique, métathéologique, etc. Et je pense pas, ça il faudrait pas, je pense pas que métaphysique ici signifierait une sorte d'antagonisme frontal avec l'idée d'existence, au sens où on pourrait dresser le portrait métaphysique du juif, même si les juifs n'existaient pas, hein, ce qu'on peut dire de la logique d'une façon générale. Là où les enjeux sont des enjeux d'existence. Donc je pense que cette opposition, il me semble, hein, il faudrait que Ricoeur ne l'a pas en vue, c'est une analytique structurelle et de l'existentialité juive. C'est comme ça que je comprends ce que veut dire Ricoeur. Et donc la question de l'existence, l'enjeu proprement existentiel, il est continuellement porté par Rosenzweig, c'est clair, et je pense que ça n'échappe pas à Ricoeur. La seconde question, c'est comment imaginer un Rosenzweig pendant, si c'est possible, enfin, il vaut mieux pas, et après la Shoah. Il m'est arrivé de dire dans plusieurs, enfin, à chaque fois que j'ai eu. Au fond, le diagnostic que porte Rosenzweig, les Juifs sont un peuple hors de l'histoire, hors de l'État, hors de la politique, hors de la succession, de la chronologie, de la vie des empires, des peuples, etc. Même s'ils ont affaire avec tout ça, hein, Rosenzweig, je l'ai pas suffisamment souligné, mais les Juifs ont évidemment affaire avec l'histoire, la politique, l'État, les empires, les royaumes, etc. Mais ce qui a été déterminé dans cette analytique existentielle du judaïsme comme diagnostic, si on peut dire, au fond, le national-socialisme l'aura réalisé à la façon d'un verdict. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ce qui se réalise avec la Shoah, ça explique pas le rapport ou même l'effort d'imagination d'un Rosenzweig, mais ce qui se réalise avec la Shoah, c'est que les Juifs sont, et c'est différent des exterminations précédentes, si je puis dire. C'est-à-dire ce qui se réalise, c'est que les Juifs désormais seront définitivement bannis de toute histoire, physiquement bannis de toute histoire, de tout État, de toute politique, de tout, etc., etc. C'est-à-dire ce qui est pensé, oui, ce qui est pensé dans l'ordre d'une analytique existentielle de l'être juif est réalisé programmatiquement, politiquement, par le national-socialisme, par l'extermination, et par l'extermination d'une certaine manière sans retour. C'est la différence entre Shoah et pogrom, bien sûr. Et quant à imaginer, le seul effort qu'on puisse faire, c'est d'imaginer Rosenzweig la variation sur la question du sionisme. Il est remarquable que dans les toutes dernières années de sa vie, il a tempéré son antisionisme. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est pas symétrique. Je pense qu'il y a une hostilité très vive devant le judaïsme assimilé, il en vient lui-même, et un refus métaphysique, si on peut dire, du sionisme, mais qui peut très bien en passer par des compromis ou des transactions s'agissant de la politique sioniste. Et on peut imaginer, si on regarde la tendance entre un antisionisme assez radical et les rapports qu'il pouvait avoir avec les sionistes allemands, y compris dans le Beth-Amidrash de Francfort, d'ailleurs, la tendance peut laisser supposer que, après la Shoah, il n'aurait pas marqué la même hostilité au sionisme politique qui a été la sienne dans les années entre 1910 et 1920, disons. Voilà. Je pense que là, si on essaie d'imaginer, on peut se dire que son antisionisme se serait tempéré. On peut imaginer un acquiescement à l'État d'Israël. On peut même imaginer un Rosenzweig, ce qu'a fait son fils d'ailleurs, s'en allant en Israël, faisant son alia.
Dès lors que le système ayant poussé jusqu'au point du national-socialisme, l'histoire hegelienne jusqu'au point du national-socialisme, le point de résistance qu'il construit autour de la figure du juif doit s'effondrer également, ou doit en tous les cas se modifier. Elle doit, je ne vois pas comment sa position interne, sa position à lui, ne peut pas s'en trouver altérée, puisqu'elle est construite en opposition de quelque chose qu'il pense belligène, mais qu'il ne pense pas exterminateur. Il le pense belligène. Donc là, la chose devrait être affectée de manière beaucoup plus fondamentale.
Alors, là il faudrait, mais ce sont des choses que j'ai peu de véritables et profondes informations historiques, mais
bien sûr, vous avez raison, ça suppose, si passe un compromis avec le sionisme, au vu d'un certain nombre d'événements, par exemple la Shoah, mais là on est vraiment dans le scénario, dans l'écrit. Je suis d'accord avec vous, ça implique en retour qu'un certain nombre d'éléments de sa théorie du judaïsme à propos de l'extra-historicité, de l'extra-étaticité, soient déplacés. Pas forcément, à mon avis, parce que la question qui est soulevée là, c'est la façon. Qu'est-ce que le sionisme ? Ou plus exactement, qu'est-ce que l'État d'Israël ? C'est des choses que vous avez d'ailleurs abordées hein, dans votre livre. Est-ce que cet État est un État parmi les autres États et qui a les mêmes problèmes, etc. Est-ce que, c'est ce que vous suggérez hein, dans votre livre, si je me souviens bien, est-ce que, au fond, cet État est simplement un refuge avec possibilité d'autodéfense armée, hein, mais pas plus, ça affecterait certainement du dedans la doctrine rosenzweigienne du judaïsme ou du peuple juif, il faudrait dire plutôt, mais ça renverrait peut-être à des représentations, à des fonctionnalités de ce qu'est l'État d'Israël, qui serait elle-même différente. C'est pas la même chose de parler d'État d'Israël comme d'une normalisation, au fond un retour des juifs dans l'histoire hegelienne, ou de penser Israël de façon beaucoup plus, et je dois dire que les dernières années me font plutôt penser qu'Israël est devenu le juif des nations, comme on dit. Et s'il est devenu le juif des nations, à ce moment-là, ça n'est pas une normalisation hegelienne ou un retour des juifs dans l'historicité de leur dessein. Mais je ne sais pas, c'est pas pareil. Je ne sais pas si je suis assez clair. Ça n'est pas pareil de se représenter l'État d'Israël comme un État parmi d'autres, et désormais soumis aux mêmes lois que tous les États du monde, ou un État, au fond, précaire, fragile, peut-être qui est menacé lui-même de disparition. Après tout, et là, ce serait ce que je crois que vous appelez ça, dans votre livre, l'État refuge.
Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de formuler toutes les remarques auxquelles j'ai pensé, d'autant plus que j'interviens moi le mois prochain, j'ai décidé de faire quelque chose sur la politique du souvenir, donc la question de la temporalité m'intéresse beaucoup. Et surtout dans votre conversation avec Jean-Michel Salansky, pour voir s'il y avait une autre disposition à la temporalité définie par le judaïsme, qui serait à la fois en opposition avec le temps de l'Antiquité grecque et le temps de la philosophie hegélienne. Est-ce qu'il y a une troisième voie que le judaïsme indique et donc qui ne serait pas dialectique? Oui, je pense qu'il y a une dimension dialectique dans le judaïsme, mais qu'elle n'est pas exclusive et qu'il y a quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que, enfin, on peut très bien formuler une histoire de l'ordre de la succession, de la transmission dans le judaïsme, mais effectivement il y a quelque chose en plus, et je pense qu'il y a que cette dimension temporelle en plus qu'il y a dans le judaïsme, ça peut être quelque chose qui se rapproche de ce que Lévi-Strauss imagine dans le synchronique, quand il oppose le diachronique de l'Europe, de l'Occident, la pensée dialectique, au synchronique des peuples, notamment amérindiens, c'est-à-dire une manière de penser qui comprend une totalité du temps. Enfin, je ne suis pas sûre si c'est clair, mais je vais l'exprimer autrement, mais c'est ce qui renverrait à la notion d'éternité qu'on trouve à la fois chez Rosenzweig, mais aussi chez les Grecs, en fait. Il y a un concept d'éternité dans la Grèce antique. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai travaillé sur la temporalité chez Antionas, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand j'avais fait la communication à l'EHESS, j'avais dit que Antionas disait que précisément le judaïsme avait apporté quelque chose à la philosophie grecque qui pouvait entrer en discussion avec la philosophie grecque, et qui était la question du temps. C'est-à-dire que dans le judaïsme, le monde commence, le monde est créé, et donc le temps commence, tandis que dans la philosophie grecque, le monde était de toute éternité, était incréé. Et donc à partir de là, le judaïsme avait apporté la notion d'histoire. Mais ce n'est pas le judaïsme qui a dragué cette notion d'histoire, c'est le christianisme dans l'Europe qui a dragué la notion d'histoire et qui en a fait quelque chose de l'ordre du progrès, etc. Et donc, et qui s'est détaché peut-être petit à petit du concept d'éternité. Mais dans le judaïsme, il y a aussi effectivement cette notion d'éternité, comme le rappelle Rosenzweig. Simplement, la question, c'est de savoir en quoi elle se détache de la conception de l'éternité grecque. Ça ne peut pas être l'éternité grecque, c'est-à-dire qui est relative à un monde incréé. Alors, comment est-ce que nous, dans le judaïsme, on fait l'expérience de l'éternité ? Donc ça, c'est une question qui me semble importante. C'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre chez Rosenzweig. C'est très spéculatif. Enfin, il y a une dimension spéculative et puis il y a une dimension très concrète qui est, à mon avis, reliée à sa triade création, révélation, rédemption. C'est-à-dire que le monde est créé. La révélation, c'est la révélation de la création du monde, que le monde est créé. Et en même temps, il y a une rédemption qui est toujours disponible dans ce monde. Et donc, c'est ce qui fait que Le peuple juif a un rapport à une expérience de l'éternité parce qu'il a la possibilité d'espérer que cette rédemption arrive. Et donc l'expérience de l'éternité, c'est l'espérance de cette possibilité de la rédemption, ce qui évidemment n'existe pas dans l'éternité grecque. Il n'y a pas de notion d'espérance, il n'y a pas de notion de rédemption. Donc ça, c'était une remarque parce que ça me semble indiquer en fait un temps qui n'est pas dialectique, qui n'est pas diachronique, mais un temps qui est synchronique, c'est-à-dire une rédemption qui est toujours disponible quelque part, ou qui est toujours disponible en tout cas, et qui nous maintient, puisque ça suppose une espérance dans cette rédemption qui est toujours disponible. Donc ça, c'est peut-être, je sais pas, un cheminement vers ce temps synchronique du judaïsme. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que ça nous indique pour notre positionnement politique ? Ce qui est intéressant, j'ai l'impression, à chaque fois dans les conférences ici, on remarque que la politique juive interprétée depuis l'exil, c'est une politique qui est minimale. Qu'est-ce qu'on fait le moins possible et qui est suffisant ? Ben précisément pour la rédemption, pour être sauvé dans l'urgence. Donc là, il y a ce thème de la rédemption qui est encore présent chez Rosenzweig. Donc j'ai l'impression que... Enfin, je ne sais pas, vous me dites. Que la théorie de Rosenzweig, ça implique une attention particulière à ce qui permet la rédemption, c'est-à-dire à ce qui permettrait de continuer à faire persévérer les Juifs, si je reprends le titre de Dany, à faire persévérer les Juifs, à les sauver. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est pour essayer de sauver la théorie de Rosenzweig de la contradiction dans laquelle il se met, enfin, il ne se met pas parce qu'il n'a pas vécu l'histoire qui est venue après, mais c'est impossible pour les Juifs d'être systématiquement hors de l'histoire, hors de l'État, etc., puisque ça ne leur permet pas de persévérer, de perdurer, d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la théorie de Rosenzweig qui est notre positionnement vis-à-vis d'une perception aiguë à ce qui nous permet de durer, à ce qui nous permet de persévérer, qui nous permettrait de le sortir d'un effondrement de sa théorie par rapport à ce qui est arrivé dans l'histoire après.
Je pense que c'est sur l'écran, partiellement, sur le propos, sur l'intention rosenzweigienne, que de penser, parce que là, on revient à la question des représentations sédimentées de l'histoire, des histoires qui ne sont pas les... Il ne s'agit pas, d'ailleurs, ça n'aurait pas de sens, de promouvoir une sorte d'effort sur soi-même qui consisterait à s'extirper, à s'extraire de toute histoire, de toute politique. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a premièrement l'idée que le peuple juif est un démenti d'une certaine... Je pense que c'est ça. Le mode d'existence du peuple juif, c'est le démenti le plus cruel qui puisse être infligé à l'ontologie hegelienne de l'histoire. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, Hegel lui-même, dans sa philosophie de l'histoire, a beaucoup de mal avec le judaïsme. Hein ? Il ne sait pas trop où le placer, ça rentre pas dans le schéma général. Donc, il faut en effet faire valoir une autre histoire, disons comme ça, ou une autre politique, qu'on peut appeler politique faible, qu'on peut appeler l'imitation de toute politique qu'il faut faire malgré tout, c'est-à-dire donc ça passe par un faire et une compréhension de ce que c'est que faire de la politique dans les conditions de l'extra-politicité. Donc ça ne veut pas dire... C'est pas une position hérémétique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va se retirer sur sa tour ou sur sa colonne, et puis on n'aura plus affaire à l'histoire. Non. Il y a donc premièrement la limitation de ce qu'il appelle l'histoire à l'entente hegelienne de ce qu'est l'histoire. Et en effet, les Juifs, ne peuple fossile, disent les uns, peuple fantôme, peuple échappe. Le constat, il est, c'est pas simplement un vœu. Rosenzweig n'aimait pas le souhait que les Juifs enfin se retirent de l'histoire. Je pense que là, ce serait un contresens. Il note simplement que le mode d'existence du peuple juif, qui est transhistorique, contrevient aux grandes catégories qui structurent l'ontologie hegelienne de l'histoire. Voilà. Et c'est ça qu'il pense. Sur la question du temps, alors ça, il faudrait du temps. Et en particulier, je contesterai, pour ma part, hein, mais ça, je me réfère en particulier à Schelling, aux âges du monde, etc. C'est une autre question, qu'il puisse y avoir quelque chose chez les Grecs comme une éternité. Je pense que l'idée de l'éternité est associée à l'instant. On voit ça chez Schelling, on voit ça chez Kierkegaard aussi. Et en même temps, elle est indissolublement rattachée à l'idée d'un commencement des temps.
je pense que un commencement des temps qui serait à chaque fois, non pas un commencement des temps qui serait non pas un passé, un temps qui aurait commencé au passé, mais un commencement des temps au sens où les trois dimensions, passé, présent, avenir, commencent de façon organique en quelque sorte. Bon, ça c'est, en tout cas, je pense pas qu'on puisse parler chez les Grecs d'éternité. Il y a l'idée d'une durée indéfinie, il y a toutes sortes de choses qui peuvent s'apparenter à la question de l'éternité. Dans le judaïsme, l'éternité n'a de sens, vous l'avez dit, hein, que par rapport à la création à partir de rien, que par rapport à un commencement radical, à une césure où le temps commence. Ça, ça renverrait aussi à des questions qui sont des questions portées par la physique contemporaine. Voilà, c'est les deux choses que je pourrais dire. C'est sur le temps, mais peut-être que c'est une discussion qu'il faudrait avoir beaucoup plus longuement. Hein. Sur le temps et l'éternité, et sur la question de... J'invite simplement peut-être à ne pas se méprendre sur ce que Rosenzweig appelle... la situation existentielle du peuple juif comme étant hors de l'histoire. Ça renvoie à l'existence concrète d'un certain nombre de communautés juives. C'est pas simplement un vœu ou une vue de l'esprit. Les communautés juives d'Europe de l'Est, celles qui ont été totalement exterminées, vivaient accordées à leurs lois et passant des compromis avec les lois des princes, mais comme ils pouvaient, parler une langue qui n'était pas la langue vernaculaire des peuples, ils parlaient le yiddish, et secondairement et tardivement le russe ou le polonais, et ils habitent, et le rapport qu'ils pouvaient avoir avec le territoire, avec la zone de résidence, etc., est un rapport. Donc ces communautés, ce sont des communautés qui vivent de façon extra-historique, extra-politique, voilà. Dans un, en plus, le temps là est structuré entièrement, évidemment, par la liturgie. Donc, ce qui est décrit par Rosenzweig, c'est un mode d'existence transhistorique qui est pour lui une évidence. Les Juifs, depuis toujours, vivent comme ça. Depuis toujours, y compris Abraham qui était un immigré, etc. Voilà. On peut discuter, on peut contester, mais je pense que pour Rosenzweig, depuis toujours, oui. Le judaïsme est exilique par essence, pour Rosenzweig, c'est clair. Alors ensuite, on n'est pas obligé d'acquiescer, on peut être tout à fait en désaccord avec cette hypothèse, bien sûr.
Il faut que l'éternité, sur le sens, je crois que vous avez donné l'extrait, il dit les Juifs sont éternels parce qu'ils se transmettent leur éternité par le sang.
Par le sang. Ah oui.
Comment vous comprenez ça?
C'est une phrase qui a donné lieu. Le sang, alors d'abord, effectivement, là, il y a quelque chose peut-être qui est, vous avez parlé tout à l'heure de romantisme, c'est possible qu'il y ait des influences venant de Herder, Jean-Michel rappelait tout à l'heure à quel point cette idée de l'exil a marqué une affinité, d'une certaine façon, dans les années avant et après 68, entre un certain judaïsme et un certain gauchisme, c'est certain. Rosenzweig était tout sauf un gauchiste. Hein. Politiquement, c'était un conservateur, si on peut dire. Alors, ça veut dire au moins que la notion d'exil est mobilisée par lui tout autrement, je suppose. Encore que je vois très bien les proximités que dans le gauchisme de notre jeunesse. Le sang, c'est simplement ce qui s'oppose à la terre.
Parce qu'il explique que la transition...
Non, ça veut dire que ça se transmet... On est, du verbe être, juif, on devient chrétien ou musulman. Cet être juif se transmet, il dit par le sang, il veut dire que ça n'a rien à voir avec une autochtonie. Hein? C'est essentiellement... Il y a une phrase où, par anticipation, il prend le contre-pied du discours de Pétain écrit par Emmanuel Berle, d'ailleurs. La terre, elle, ne ment pas. Et il y a une phrase dans l'étoile où il dit « La terre ment toujours ». Le sang, lui, c'est-à-dire, le mot est périlleux, hein, il écrit à un moment où on peut utiliser presque naïvement ce terme. Pour lui, c'est le sang, c'est-à-dire cette transmission qui ne ment pas. La terre ment, les lois mentent, etc.
Oui, parce que là, il est parfaitement dans la halakha. C'est-à-dire
oui, oui, bien sûr. Absolument, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Vous avez raison, bien sûr. Mais il est souvent très très proche de la tradition la plus orthodoxe du judaïsme.
Vous attendez David Trump, et j'ai vu qu'il a réagi à ce moment-là. Par exemple, vous avez défini l'action politique, parce que c'est une question politique, au fond, quelle est l'agir politique pour un juge, enfin, qu'est-ce que c'est, comment on peut agir, c'est une question politique. Dans ce sens-là, c'est très bien pour l'éternel, mais comment on se situe par rapport aux autres, comment on se situe par rapport à l'humain et par rapport à l'état du sein, par exemple. Mais alors, nous, vous avez défini quelque chose, effectivement, qui dit bien la dualité de la pensée. Chez Rosenzweig, bipolarité interne entre l'impossibilité et l'urgence. J'attendais ça parce que Danny Trump, dans son exposé, vous avez bien, par rapport au livre d'Esther, il avait bien situé l'action politique, enfin, par rapport à l'urgence.
L'urgence, dont il s'agit là, n'est pas l'urgence. C'est l'urgence qui est en quelque sorte requis par l'anticipation de la venue du Messie. Oui. Donc là, chez Rosenzweig. Oui. Donc en fait, on n'est pas du tout dans le même...
Oui, dans le livre d'Esther, c'est l'urgence du présent, alors que dans...
C'est l'urgence devant la menace.
Devant la menace. Par rapport au présent.
Oui, et là, c'est l'urgence devant l'espérance.
Alors que là, pour Rosenzweig, c'est l'avenir. C'est l'urgence d'imposer dans le présent l'avenir.
Absolument.
Il y a autre chose que vous dites, avec plein de remarques que vous avez faire par rapport à quelque chose que vous n'auriez pas dit et qui concerne Rosenzweig et qui peut-être a une incidence sur ce dont nous discutons, c'est la place très importante qu'il donne au langage et dont il manifeste par son écriture même, par sa manière justement de complètement briser la logique dialectique hegelienne. Et la deuxième chose, c'est la spécificité du christianisme. Il ne le situe pas en opposition, il le situe comme une sorte de voie parallèle par rapport à la même chose. Et je crois que c'est une originalité. Alors, comment on peut cheminer avec ça ?
Sur le premier point, je n'avais pas dit, il est fondamental. Rosenzweig a écrit un petit texte qui s'appelle La nouvelle pensée, le nouveau pensée, où il essaie lui-même de résumer, parce je crois qu'il dit en préambule que, au fond, personne n'a compris l'étoile, que les juifs cultivés ont acheté le volume et l'ont mis immédiatement sur leur étagère, et donc il entend proposer un certain nombre d'éclaircissements sur cette nouvelle. Et dans ce texte, mais il le dit dans d'autres textes, il définit sa pensée comme un Sprachdenken, c'est-à-dire une pensée parlante. Pas simplement une pensée, et pas du tout même une pensée de la parole ou une philosophie du parler, mais une pensée qui se meut dans l'élément même de la parole. Ce serait, là aussi, c'est comme pour la question du temps, hein, ce serait très long, mais vous avez raison, j'en ai pas du tout parlé parce que j'ai essayé de me concentrer sur un seul point, la politique, les linéaments d'une politique, etc., chez Rosenzweig, mais toute sa pensée. Et ce qu'il appelle pensée parlante, c'est quelque chose qui vient s'opposer au philosophé par concept.
Au
mutisme, mais pour lui, le mutisme, c'est pas simplement le mutisme du prémonde, du héros tragique, c'est aussi le mutisme du concept. Il dit que, dans la deuxième partie d'Étoile, il dit que son projet, c'est de sonoriser les concepts. On ne peut pas être plus parlant, hein, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que là où le concept où la philosophie tend à inventer, via la mathésis universalis, une langue qui serait une langue universelle, une langue de pur concept, qui ferait qu'on a même... c'est peut-être ce que arrivent à faire les mathématiciens, d'une certaine manière, mais une langue qui ferait qu'on n'aurait même pas besoin de la parler, de parler la langue vernaculaire. On échangerait les concepts ou les équations.
Voilà.
Donc la pensée parlante, c'est exactement une pensée de ce qu'il appelle le devenir sonore du concept. C'est une chose très importante et très belle, enfin, que
pourquoi moi j'ai beaucoup d'admiration et d'intérêt, mais il faudrait des heures là aussi. Et puis votre deuxième point, oui, c'était la question du christianisme. Oui, j'en ai pas parlé non plus, parce que il y a évidemment dans l'étoile continuellement deux modèles qui sont contreposés, deux modèles de la rédemption en particulier, qui est qui s'oppose en tout point. On a pu, je vois pas très bien comment on a pu dire de Rosenzweig qui était le promoteur d'une sorte de œcuménisme judéo-chrétien. Le christianisme est une voie nécessaire. Le judaïsme, c'est même pas une voie, comme il dit, il oppose voie et vie. En tout cas, sans entrer dans trop de détails, il y a évidemment une analytique du christianisme, comme il y en a une du judaïsme. Et les deux modèles s'opposent presque point par point. Et il contrepose sans cesse ce qu'il appelle, par exemple, à la fin de l'étoile, un certain péril inhérent au judaïsme, ce serait l'oubli du monde, et un autre péril inhérent au christianisme, ce serait l'oubli de Dieu, etc., etc. Donc, il y a effectivement tout ça dans l'étoile. Et au fond, s'il fallait dire d'une phrase, qu'est-ce qui différencie et qu'est-ce qui permet de contraster, en même temps de comparer judaïsme et christianisme, il y a aussi des paragraphes sur l'islam, c'est que le christianisme et le judaïsme sont des modes particuliers d'articulation du temps et de l'éternité, et des modes incomparables. Il y a une voie chrétienne d'articulation du temps à l'éternité et une vie juive qui articule l'éternité au temps. C'est là que ça se jouerait. Les paragraphes sur l'islam sont assez aujourd'hui on dirait presque islamophobes. Comment ? Oui, ils sont. Et on a pu comparer le traitement rosenzweigien de l'islam au traitement hegelien du jeune Hegel du judaïsme. Mais il faut ajouter que dans une correspondance évidemment ultérieure, il fait une autocritique, enfin il ne développe pas l'autocritique, mais il dit « Je reconnais que j'ai traité en allemand il dit « zu kurz », que j'ai traité l'islam dans l'étoile on pourrait dire par-dessus la jambe. » Donc il faut, je pense que ce sont des paragraphes qui sont faibles, ça c'est évident.
Maintenant que je passe la parole à Tony Lévis, vous pouvez manger.
Oui, vous pouvez manger,
des cafés.
Je vais être bref. J'avais lu certains de vos textes, mais je n'avais pas eu l'occasion d'échanger, donc je vous remercie beaucoup. Vous avez donné. Je vais juste apporter un petit caillou dans la métaphore mathématique, judaïsme, Talmud. C'est une longue histoire, une discussion avec Jean-Michel. J'apprécie ce qu'il a ouvert dans justement de ce point de vue-là, de secouer ce cocotier de cette métaphore, parce qu'il se trouve que j'ai passé une partie de mon activité professionnelle à étudier l'histoire des mathématiques chez les Juifs, et en particulier le texte mathématique rédigé par les Juifs. Et ma conclusion, elle peut être mise en cause un jour ou l'autre, c'est que c'est presque antinomique. Il n'y a pas de grands mathématiciens juifs, je suis désolé de peut-être... Ça fâche parfois certains publics juifs auxquels j'en parle. Je le fais à grands traits, et en particulier, ça embête encore plus quand je dis que les seuls nobélisables à l'époque de Maïmonide, c'était les Arabes. Bon, alors, j'assume totalement, on a souvent parlé avec le rab de cette question. C'est juste pour souligner que ça a coexisté, cohabité, mais ce qui me frappe, je répète, qui me frappe, j'ai pas définitivement clos la chose, mais... Oh, c'est que jusqu'au XVIe siècle, il n'y a pas de grands mathématiciens. Ils étaient pourtant équipés, hein, je veux dire, même notre ami Maïmonide, qui touchait à tout. Hein. Mais d'autres aussi, à part quelques exceptions exceptionnelles, je dirais, mais pas la peine d'en parler ici, c'est un Provençal, Lévi Ben Gershom. Et voilà, je veux mettre ça comme un caillou dans vos réflexions. Si j'ose dire, c'est notre histoire de génération, peut-être aussi de juifs ayant fréquenté le gauchisme, je ne sais pas. Voilà, c'est un caillou que je veux mettre là-dessus. Arrêtez de convoquer les mathématiques. Même le fameux passage de Rosenzweig J'avais demandé à mon ami Gilanus de me l'expliquer. Il m'a dit, je ne sais pas comment te l'expliquer. Où il dit, on peut convoquer une science, c'est les mathématiques qui nous permettent de comprendre le rapport du néant à la révélation. Mais je ne comprends rien, moi, absolument rien du tout à ça. Bon, peut-être
c'est la mathématique du transfino de Cantor.
Oui, non, mais ça, justement, c'est pas de ça qu'il s'agit chez Cantor et dans le transfino. Et bon, voilà. Et je disais même à Michel, on a eu plusieurs fois un échange, que même les mathématiques grecques qu'on convoque souvent comme une image de l'éternité, c'est faux. C'est faux. Elles ont une histoire, et c'est une histoire qui est complexe, comme toutes les histoires, et il n'y a certainement pas il n'y a certainement pas une image de l'éternité dans l'histoire des mathématiques depuis le lointain et hypothétique personnage qu'on appelle Euclide. Voilà, c'est tout. Je voudrais que ce caillou soit déposé. On en a parlé souvent, c'est tout. Donc je suis peut-être un peu frustré qu'on n'avance pas, mais c'est peut-être à l'image aussi de nos échanges ici, et aussi à leur fécondité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Non, il fait, je pense que c'est assez, la référence que Perrault fait dans les cours à la mathématique comme organum, dit-il, elle est assez sommaire. C'est simplement, je crois que l'essentiel du propos, c'est que le philosophé par concept et l'organon mathématique sont affinitaires. Voilà. C'est-à-dire que...
Je ne sais pas, j'en doute.
Ce serait hors langue, voilà. En tout cas, l'articulation par concept et la démonstration mathématique se ferait hors langue. C'est ça qui le frappe.
Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Jean-Michel le dira, mais un mathématicien qui ne peut pas parler, il ne fera pas des mathématiques.
J'ai pas de compétences particulières, mais ça peut discuter quand même.
Bon.
Non, il peut très bien parler d'une part et faire des mathématiques de l'autre.
C'est ça, mais je veux dire, quand il va faire des mathématiques, il n'est pas totalement dessaisi de ce qui le traverse.
Non, mais on peut quand même concéder, même si c'est, je dis pas non plus, que dans le philosophé par concept, dans un certain nombre de sciences et idéthiques, la langue vernaculaire brouille quelque chose de la démonstration. C'est quelque chose qui vient parasiter la science d'une certaine façon. C'est une chose bien connue, hein, c'est-à-dire que la science doit s'élever, elle est grecque cette chose, la science doit s'élever au-dessus de la doxa. Que fait la doxa? Elle parle. Que fait l'opinion? Elle opine. Et quand on fait des mathématiques ou de la science, il vaut peut-être mieux éviter cette parole-là et inventer quelque chose qui est de l'ordre de la mathésis universaliste. Ça me paraît, quand je lis ça sous la plume de Rosenzweig, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Alors peut-être que c'est rapide, peut-être que c'est insuffisant quand on vu du côté du mathématicien, c'est possible. Non, je sais, historien de la
technique. C'est différent.
Parce que vous avez lu sur Krasdijk-Kreskaz.
Jean-Michel est mathématicien, je ne suis pas mathématicien.
Ah non, je sais, mais je vous réponds là.
Plusieurs.
Oui, je voulais dire un mot sur autre chose que les mathématiques. Parce que c'est un sujet trop délicat, trop angoissant. Ça me tient trop à cœur. On ne peut pas parler de ça, c'est impossible. Je voulais parler de quelque chose qui m'était apparu à la fois en écoutant Avishag et en écoutant ton échange avec ma voisine de droite. Une façon dont il faut comprendre, dont on peut comprendre et dont il faut comprendre, à mon avis, l'idée de l'extra-historicité du peuple juif chez Rosenzweig, c'est qu'il voit très bien que, de facto, les Juifs ont continué, ont persévéré, pour reprendre le mot de Dany, de façon aneconomique. Le problème, c'est de savoir si tout ce qui arrive dans le champ humain est par avance phagocyté par l'économie. La notion d'économie est la dynamique de l'économie. Et finalement, même Hegel n'est pas essentiel là-dedans. Hegel, c'est quelqu'un qui a fait une philosophie où il égalise le temps, l'être et le logos à l'économie. C'est une manière de raconter Hegel. Mais toute autre philosophie qui ne voit que l'économie, au sens justement au sens Lévinasien de l'économie, au sens c'est une immanence qui a besoin de rien d'autre et qui tourne. Bon. Et donc Rosenzweig, à mon avis, il saisit que le peuple juif, en lui, il y a une tradition de rester un peu en dehors et ou à côté de cette prévalence spontanée de l'économie. Et donc les deux idées que j'avais, c'est d'abord l'idée de l'espoir dans ce que disait Abishak, à mon avis, ça correspond à ça, c'est que c'est l'idée qu'on a un rapport à l'espoir qui est un économique, que les Juifs ont gardé cette idée que on va continuer à espérer et c'est pas justifié par les lois du monde, c'est pas justifié du tout. On est dans l'espoir de façon anéconomique. Bon. Moi, je reconnais ça, je m'accorde avec elle sur ce constat. Et deuxièmement, dans le dialogue que tu as eu avec ma voisine, on voit que il est tenté, Rosenzweig, cela dit, d'interpréter soit la matière, soit le sang comme des modes de l'âme économique. Il dit, il dit, il faut sonoriser les concepts. C'est-à-dire, si les concepts sont seulement, on a l'impression qu'il faut que quand il défend le langage, c'est parce que le langage, ça ramène le conceptuel au niveau de la matière, plus ou moins. Sonoriser, ça veut dire matérialiser. Et à ce moment-là, on n'est pas forcé de le suivre. Que la matière n'est pas un hôte de l'économie. Je pense que si Rosenzweig pense ça, il aurait tort, parce qu'en fait, la matière rentre tout, par principe dans l'économie. Donc, en réalité, au contraire, le langage est lié originairement à l'âne économique, parce que le langage, c'est l'idéalité, justement. Moi, c'est comme ça que je dirais. Mais et le sens, c'est pareil. Il pense que le sens, c'est que la transmission, selon la règle alarique de l'identité juive, si c'est par le sens, c'est hors de l'économie. Mais il y a des gens qui ont fait du sang, au contraire, une super catégorie de l'économie historique. Donc, à mon avis, il aurait déchanté aussi de faire jouer le sang contre l'économie n'était pas une bonne stratégie. Voilà, mon idée.
La langue, pourquoi la ramener, la réduire, la confondre avec l'idéalité?
La parole, ça peut être au contraire quelque chose comme une peau, quelque chose qui est du côté d'une hypersensibilité. La parole parle. Alors, il y a évidemment des stats. C'est un mot de Rosenzweig, la parole parle, qui est dans une sorte de mimétique insu, évidemment, avec Heidegger qui dit à peu près la même chose. Et il y a évidemment des paroles qui parlent pour parler, en quelque sorte. Il fait lui-même une distinction entre parole parlée et parole parlante. Et il y avait évidemment une parole au sens de Lévinas. Hein, quand Lévinas dit le visage parle, c'est pas un langage qui est rapporté à l'idéalité des mathématiques. La langue dont il parle, c'est la langue où la sensibilité, quelque chose de la sensibilité, vient à s'exposer et peut-être à se mettre en danger. La parole est toujours là aussi risquée. Hein, à la fin de ce texte dont je vous parlais tout à l'heure, La Nouvelle Pensée, il le dit très bien. C'est-à-dire, il dit, au fond, quand je suis seul avec mes concepts, je ne parle pas. Peut-être seul avec mes équations mathématiques, je n'en sais rien. Je ne parle pas. Quand je parle forcément, dit-il, à un autre. Donc la parole, c'est une parole qui s'adresse à. C'est donc pas une parole qui produit ou qui reproduit quelque chose de l'idéalité. Elle s'adresse à, et il ajoute, quand je parle à un autre, parler, c'est parler à un autre, je ne sais pas ce qu'il va dire. Il décrit les choses très simplement. Je lui dis quelque chose, je ne sais pas très bien ce qu'il va me dire. Et donc, dans la parole, en tant qu'elle est exposition du sensible, se joue une anti-idéalité. Alors, voilà. Donc, sur ce second point, soit on ne s'est pas compris, soit je ne suis pas d'accord.
Je suis d'accord, effectivement, mais en fait, un aspect de désaccord, c'est que le mot idéalité ne veut pas du tout dire la même chose pour toi.
Voilà. Bon, ben.
Aujourd'hui, à nouveau.
Il y en a.
Je voudrais vous remercier parce que vous m'avez donné accès à la pensée de Rosenzweig que je ne connais pas encore, mais je veux m'intéresser. Mais tout ce que j'ai entendu de vous, j'ai l'impression qu'on peut le dire aussi à partir de versets explicites de la Torah et de phrases de la Guémara. Par exemple, l'extra-historicité du peuple juif, c'est un verset de la Torah. Justement dans la bouche de Bilham. Hem am levada dishkon ou bagoim loitrashav. Donc ça fait un peu c'est intéressant, mais de dire Rosenzweig, le discours de la pensée de Rosenzweig sur l'extra la position en dehors de l'histoire d'Israël, ça fait un peu gros de ramener la chose à Rosenzweig. Première remarque. Et à propos, alors justement dans ce même sillage, alors ça c'est, vous l'avez dit, comme si c'était un adage. Il n'y a pas d'avant et après dans la Torah. Mais ça c'est faux. Qu'il existe cette phrase. En mukdam ou meuhar batora. Qu'on peut traduire faussement, il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah.
Mais alors, justement, elle pourrait être un peu
choquant. Eh bien, il faut revenir au contexte où cette phrase, elle est apparue.
Ah, d'accord.
Qui dit cette phrase? Vous pouvez la trouver dans n'importe quelle Bible avec un commentaire de Rashi. C'est une constatation que tout le monde peut faire. Dans le livre de Bamidbar, des Nombres, entre le premier verset du chapitre 1 et le premier verset du chapitre 9. Le premier verset du chapitre 1, il parle d'un moment qui est postérieur au moment qui est évoqué dans le chapitre 9. Constatant cette chose que tout le monde peut remarquer et qui existe dans beaucoup de romans, hein. Dans un roman, si on signale, voilà, Rashi constate en mukdam ou meuhar batorah, que dans le texte de la Torah, évidemment, l'histoire, elle a une immense place, et le seder d'Ivrei Hayamim, le seder olam a une immense place, mais c'est pas la place de la chronologie, c'est pas l'importance chronologique qui dicte le moment d'apparition des différents textes de la Torah. Ça, c'est explicite dans le texte même de la Torah. Ensuite, en mukdam ou meuhar batorah comme principe d'interprétation, il est ouvert, il a donné lieu à des discussions. Par exemple, lech lecha. Le texte de la Torah parle de, du moment de l'Ech Lecha où Abraham il a 75 ans. Or, un peu plus tard, dans la même paracha, on parle de Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. Or, d'après Rashi, cette alliance des morceaux a eu lieu quand Abraham avait 70 ans. Comment on le sait? Puisque à la sortie, il y a une datation de la sortie d'Égypte qui est 430 ans. Depuis Brit Ben Abetarim, c'est donc que Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux qui est relatée dans la Torah après l'Ech Lecha, en fait s'est passé avant. Et ça, on a une tradition, ou pas, parce que ça peut aussi donner lieu à une discussion, on a une tradition, ou pas, qui permet de dire que l'enchaînement des textes dans la Torah ne respecte pas la chronologie de ce qui est raconté. Mais ça ne veut pas dire, et ça, Yerushalmi, il payera pour ça, parce qu'il a, il a inondé le monde de cette erreur, de cette illusion, que dans le judaïsme, dans la tradition rabbinique, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'historiographie, et d'après moi, c'est exactement le contraire. Que dans le judaïsme, il y a de l'histoire et une historiographie, pas hégélienne, ça c'est sûr, mais véritablement parce que, et ça c'est, je reprends les mots de M. Salansky, il y a un souci de transmission et de tradition pour dire l'histoire et cette chose-là depuis Adam Harishon et jusqu'à aujourd'hui.
Non,
c'est très simple, c'est très simple. Ça veut dire, personne ne pense que les juifs ou ceux qui étudient la loi sont incapables d'avoir une représentation de ce qui vient avant et ce qui vient après. La question n'est pas là. La question c'est de savoir comment sont articulés et rendus opératifs les rapports entre l'antériorité et la postérité, entre l'avant et l'après. C'est ça la question. C'est pas que les juifs sont congénitalement incapables de se représenter ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. J'aurais peut-être dû le préciser, mais c'est évidemment pas de ça qu'il est question. La question c'est de savoir si ce qu'il y a avant prédétermine structurellement ce qui vient après. Et si ce qui vient après est entièrement déterminé par ce qui vient avant et ne peut pas le déterminer en retour. Donc c'est la façon dont s'articule, se joue dans une sorte de réciprocité, d'interaction, etc., l'avant et l'après. Et Rosenzweig, c'est un homme qui vient d'une famille juive assimilée, je l'ai dit tout à l'heure, qui est un grand spécialiste de Hegel, qui aurait pu effectivement, vous l'avez dit, faire une carrière d'universitaire hegélien comme il y en avait tant en Allemagne à ce moment-là, et qui fait retour. Qui fait tchouva, il le fait il apprend l'hébreu, il se remet entièrement là. Et au fond, le propos de Rosenzweig, ça a été noté par plusieurs d'entre nous, c'est un propos qui se tient très près de disons de ce qu'on appelle l'ultra ou l'orthodoxie tout court, l'orthodoxie juive de son temps. Et donc il est frappé par quoi? C'est un hegélien de formation. C'est aussi un poste et un anti-hegélien. Mais il est frappé, on l'a dit pour les communautés, pour l'existence transhistorique, pour la chronologie et la succession, il est frappé de voir qu'on a des modes de pensée dans le judaïsme, sur l'histoire, sur le temps, sur l'éternité, sur l'avant et sur l'après, qui sont radicalement étrangers à la modalité hegélienne, c'est-à-dire, Hegel c'est pas un individu isolé, c'est-à-dire à la grande tradition de l'idéalisme classique allemand et même plus largement de la philosophie. C'est ça qu'il faut comprendre et mettre en tension. Vous voyez, quand je me suis référé à il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, je veux pas dire, j'ai jamais, ça voulait pas dire que, je sais pas, qu'on a affaire là à une sorte de stupidité congénitale, ce n'est pas ça.
Il dit qu'il y a un mépris ou une absence de science d'historiographie juive.
Ben, jusqu'où? Ça, moi, je n'ai pas les moyens de trancher, mais jusqu'au XVIe siècle, disons, il n'y a pas de. Alors c'est pareil, il n'y a pas d'historien au sens scientifique de ce qu'est l'historiographie moderne. Alors peut-être qu'il y en a, moi je les ignore.
Quels sont les critères scientifiques?
Ah ben voilà, mais alors là on retombe dans ce que je vous dis préalablement.
Alors voilà, pour Yerushalmi, il n'y a pas d'historien à la mode Yerushalmi dans le judaïsme.
D'accord.
Parfaitement.
D'accord, je suis d'accord, là on peut. D'accord. Ça revient à remettre sur le métier la question, ou remettre en chantier la question, qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce qu'on appelle histoire et qu'est-ce qu'on appelle historien? Et qu'est-ce qu'on appelle interprétation, méditation, compréhension d'une histoire? Et il y a donc, à chaque fois, on retrouve deux façons, deux modes qui sont hétérogènes. Le mode philosophique qui culmine dans l'hégélianisme et la façon dont ça se déploie dans l'étude. Et c'est effectivement très très différent. Rosenzweig note, repère et travaille cette différence. C'est tout, d'une certaine façon.
Alors, j'ai encore deux questions de l'année question. Marc Israël, et après ce sera David.
Voilà, merci. Et je voulais vous parler, revenir encore à cette alternative au nom de Yitzhak Ber, hein, que je n'ai pas lu, mais c'est entre une exception juive qui ne devrait pas gêner, disons, la philosophie hegelienne de l'histoire, parce qu'elle serait comme une exception qui resterait une exception, et donc alternative entre cela et ce que vous avez appelé à un moment l'idée que ça pourrait avoir un impact sur l'histoire, auquel cas on aurait plutôt une réfutation de la philosophie hegelienne de l'histoire. Alors au début, en fait j'ai évolué après dans... Enfin, moi j'ai gardé cette question en ayant l'impression que vous ne la résolviez pas vraiment, parce que alors, au début j'ai d'abord pensé, au fond, c'est Rosenzweig qui lui, peut-être, parce que je ne le connais pas assez, maintient une sorte de vérité de l'hegelianisme lorsqu'il s'agit de l'histoire des autres, mais que simplement, voilà, la pierre d'achoppement, c'est ce que les juifs sont par rapport à cela. Et je me disais, mais Gérard Bensussan ne pense de ce point de vue-là sûrement pas, ne se contente pas de penser cela, parce que, connaissant votre livre sur le temps messianique, sur la base de ce livre, je dirais qu'au contraire, vous rameutez justement tout ce que vous pouvez comme philosophie non-juive pour établir tout un bastion anti-hegélien, avec Shein bien sûr au premier rang, et simplement, or, à un autre moment, vous avez quand même finalement ouvert ce que vous avez appelé une parenthèse schellingienne. Alors, si ça avait été en votre nom, j'aurais dit, bon, ben, il y a une différence entre Rosenzweig, peut-être dans le rapport de Rosenzweig à Hegel, et celui de Gérard Bensussan, qui n'est pas payé pour être uniquement Rosenzweigien, enfin, qui peut, par conséquent, penser que qu'on peut être plus profondément anti-hegélien encore, disons. Mais à partir du moment où vous avez cité, je crois, Rosenzweig lui-même, disant, enfin, approuvant Schelling au point de dire qu'il n'aurait peut-être pas écrit son étoile s'il avait lu les âges du monde, alors je me suis dit, ben non, finalement, Schelling rejoint ce que j'attribue seulement à vous. Alors le problème, c'est le christianisme, alors. Parce que le christianisme, dont on a parlé seulement dans le débat, et qui aurait pu être votre réponse à la toute première question, quand on vous demandait quelles sont les fonctions, quelle est la fonction des nations, finalement. Alors, si en un sens le christianisme est justement cette voie autre à laquelle Rosenzweig accorde de l'intérêt, mais qui, par son caractère quand même très mondial, disons, a un impact considérable, enfin, donne du coup, disons, à l'histoire des autres, au moins comme histoire chrétienne, peut-être, je ne sais pas comment, ce que vous en pensez, un caractère hegélien assuré, c'est-à-dire qui du coup garantirait un succès de la philosophie hegélienne dès qu'on prend l'histoire de l'humanité du côté de la voie chrétienne et non du côté de la vie juive. Voilà, donc, du coup, à la fin, je me suis dit que c'est... Mais que ça, c'est ce qui maintient, selon Rosenzweig, un succès de Hegel, mais peut-être pas selon vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
La question est difficile. Parce que la question de fond que vous posez, c'est celle du rapport de Rosenzweig à Hegel. D'une certaine façon, via le christianisme, ou alors disons Hegel, Rosenzweig, christianisme. Certainement, pour Rosenzweig, il y a dans l'hegelianisme, dans les structures ontologiques de l'historicité mises en rehaussées comme ça par la philosophie de l'histoire de Hegel, il y a quelque chose comme une vérité. Il dit que ce cas de funeste Hegel, ce qui est nocif, c'est le mot qu'il utilise, schädlich, ce qui est nocif, qui est nuisible dans Hegel, c'est qu'il dit la vérité. Au fond, Hegel dit la vérité de ce monde livré aux États, aux révolutions, aux guerres, etc., aux empires. Donc il y a une vérité hegelienne. Et il y a aussi
c'est esquissé par Rosenzweig, mais on pourrait le montrer de façon encore plus poussée ou avancée. Hegel est certainement, beaucoup plus que Schelling, contrairement à certaines élucubrations, le grand philosophe du christianisme. Parce que, au fond, il parvient à exaucer la vérité de la religion chrétienne, de la représentation, j'utilise les mots de Hegel, de la représentation au concept. C'est-à-dire que le christianisme, le rapport hegelien à la vérité, c'est extraordinaire. Il y a toujours une vérité d'eux pour Hegel. Mais c'est une vérité qui ensuite va s'auto-limiter. Il y a une vérité de la religion, vous dit Hegel. Du christianisme, hein. Il y a une vérité incontestable du christianisme. On est à l'opposé de ce que sont les Lumières françaises, par exemple. Seulement, cette vérité du christianisme, la religion chrétienne elle-même n'est pas apte, n'est pas capable de la porter pour elle-même. Il y faut la philosophie. Le rôle de la philosophie, c'est de porter la vérité du religieux, de la représentation, jusqu'au concept. C'est dans cette mesure-là où Hegel est le plus grand philosophe du christianisme qui soit, sous cet aspect du rapport à la vérité et du rapport du concept à la représentation religieuse. Alors, le geste rosenzweigien, peut-être qu'il est compliqué, peut-être qu'il est peut-être incertain, je dis pas du tout que c'est un geste tranché, magistral et définitif, pas du tout. Mais le geste rosenzweigien, ça consiste, au fond, à circonscrire la vérité de Hegel à un certain moment de l'histoire. Le moment chrétien, si on veut, c'est-à-dire le moment de l'État, le moment de la politique, le moment de l'histoire, etc. Donc il y a une vérité de Hegel à l'intérieur de ce moment. Mais ce moment, donc vous voyez, le geste rosenzweigien, ça ne consiste pas à venir fracasser Hegel en disant Hegel a tout faux. Pas du tout. Hegel a tout juste. Tout ce que dit Hegel vaut. Mais ça vaut pour un certain moment. Le moment contemporain. Avant Hegel, il y a certainement autre chose. Et après Hegel, il y aura également autre chose. Ce geste est exactement semblable au geste qui est effectué par Maïmonide à propos de la création du monde sur Aristote. Maïmonide dit Aristote, ce qu'il nous dit du monde tel qu'il est, Aristote, c'est juste. C'est vrai. Mais ça, c'est la vérité d'un monde qui ne se sait pas créer à partir de rien. Et d'où un certain nombre d'erreurs, mais au fond, la vérité de la physique aristotélicienne, pour Maïmonide, elle tient là-dedans. Donc c'est le même geste qui consiste au fond, hériter d'une vérité et la travailler en la limitant, en la coupant sur tous ses bords, en quelque sorte. Et évidemment, la vérité d'Aristote pour Maïmonide ou de Hegel pour Rosenzweig, c'est une vérité du coup qui n'est plus vraie. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité qui n'est vraie que pour ou dans telle ou telle circonstance? Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions qui sous-tendaient votre intervention, certainement pas, mais c'est ça la question. La question de Hegel, dont vous me demandiez, mais au fond, est-ce que Hegel vaut pour les peuples du monde, mais moyennant l'exception juive, ou est-ce que l'ontologie hegelienne de l'histoire est par elle-même fautive? Le geste rosenzweigien, ça consiste à dire non, Hegel, il y a une vérité de Hegel, cette vérité est limitée. Voilà, c'est une vérité limitée. Et c'est une vérité qui est funeste, parce qu'au fond, ce que nous dit la philosophie hegelienne de l'histoire, c'est, Rosenzweig le dit comme ça dans une lettre, il dit ce que je vis, moi, dans les tranchées, au front, devant le spectacle de tous ces jeunes hommes qui meurent, etc., c'est au fond ce que Hegel a écrit de l'État et aussi de la guerre. Donc il y a une vérité de Hegel, mais elle est schädlich, dit Rosenzweig. Elle est nuisible, elle est nocive, mais elle est vraie, dans ses limites propres. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Merci beaucoup. Vous posez la question en privé. Vous allez nous donner. Donc merci, un grand merci à Gérard Benchusson.
Merci à vous tous.
Merci à tout le monde d'avoir participé. Et donc on se retrouve dimanche 2 février.
avec une séance animée par Avishak Zafrani sur le thème, je la laisse elle-même le dire, la politique du souvenir. 16h, 19h, même endroit. Merci Raz, merci les Toussaint, merci Lani, merci.
Abordé, il me semble que je n'ai pas voulu prolonger. Il n'a jamais fait quelque chose. Justement, son Beit HaMidrash, c'est ça qui est passionnant aussi sur le côté historique, c'est qu'il n'y a pas de Beit HaKnesset. Il y avait sur le frontispice à l'entrée, nous ne soyons pas religieux. Donc c'est, quoi, c'est un refus de l'assimilation, c'est un refus du sunnite, c'est un refus de la Teshuvah aussi. Sa voix, elle est.
Pourquoi?
Hein?
Pourquoi c'est un refus de la Teshuvah? Il fait Teshuvah.
Ah non, il n'est pas dans la pratique des mitzvot.
Il
est dans la pratique des mitzvot.
Bien sûr, non, non. Il est dans la pratique des mitzvot.
C'est Joe le pro de tout ça.
Tu sais, c'est rien que le stop qu'il faut faire pour arriver. C'est sûr ? Ça enregistre bien.